Bonjour Daniel, c'est Florent de Villers-Julien, dans le Trièves. J'ai été très triste d'apprendre la mort de François Béranger. Ça fait mal. Il faut malgré tout continuer le combat.
Parfois dans la radio, j'entends ma grosse voix. C'est pas souvent, faut dire, enfin ça arrive parfois. Je me dis qu'avec une voix comme ça, on peut pas chanter l'amour. Faudrait plus de trémolo, du feeling, du vibrato. La fille que j'aime, c'est pas la plus belle, c'est pas la...
Au revoir et merci Monsieur Béranger.
Bonjour Signal Sonore, c'est Catherine de Grenoble. Je rigole, mais en fait non, je rigole pas du tout. Je me suis réveillée assez tard aujourd'hui et j'ai appris d'un coup, le père Léon qui se casse là, Schwarzenberg bien sûr. Le François, alors là, et ben le François Béranger, moi j'ai deux cassettes piratées même, donc elles sont dans un état déplorable, mais putain, mais je les ai gardées, c'est des pièces de musée. Et enfin tout ça pour, oui, le mur aussi, là, j'ai oublié le mur, hein, dont l'émission parle actuellement. Mais juste entre Schwarzenberg qui me vole ma vieillesse et Béranger qui me vole ma jeunesse, putain, j'ai l'impression d'être amputée, quoi. Enfin, voilà, désolée, je voilà. Gros bisous à tout le monde, gros bisous, et c'est vrai que ils l'ont fait exprès les deux schtroumpfs là pour se barrer le même jour comme ça là. C'est pas sympa pour nous quoi. Mais bon, on va faire. Allez, bisous, je vous embrasse tous.
Bonjour l'équipe de là-bas si j'y suis, c'est Muriel Détemps. Je suis triste d'apprendre la mort de François Béranger. Il me rappelle toute ma jeunesse. Merci Myrmé pour vos émissions. À bientôt.
Salut Daniel, ben c'est Fred, je viens d'apprendre la mort de François Béranger, c'est encore, je suis d'autant plus ému que j'allais enregistrer avec Magrat une chanson qui s'appelle Département 26, qu'il avait écrite et que j'adore chanter, et puis avec des copains de la conf en Ardèche aussi, quoi, enfin voilà, quoi, et voilà, bon, bah écoute, voilà, bah on est très triste, et salut Daniel, à bientôt.
J'ai un gros chagrin et je suis un petit peu à la bourre par rapport à ceux qui ont pu réagir aujourd'hui déjà. Un gros chagrin de la mort de François Béranger, qui est un repère essentiel. Je veux dire qu'on n'a pas 36 repères dans une vie comme ça, des choses qui vous tiennent debout. Il y a des gens qui m'ont découragé à une certaine époque d'oser écrire et chanter mes trucs. C'était des Ferré, des Brel, des Brassens. Je me disais, je ferais jamais ça, autant que j'arrête tout de suite. Et puis un mec comme François Béranger, qui a 25 ans, à mes 25 ans à moi, m'a montré qu'on pouvait écrire et chanter la vie avec des mots simples et être debout dans ses bottes toute sa vie. Et je suis malheureux, j'ai 54 ans, et ce mec-là va me manquer, bonjour le lapsus. J'avais un père qui était Ferré, et j'avais un grand frangin qui était François Béranger, et j'ai mal, et je suis malheureux. Et voilà, je vous souhaite bonne continuation à tous.
Salut Daniel, salut l'équipe de là-bas, c'est Bruno de Guadeloupe. Ben voilà, grosse tristesse hein, ce matin en apprenant la mort du poète François Béranger. J'ai 43 ans et c'est encore un jour, un pan de ma jeunesse révoltée qui disparaît. Alors je sais pas si nous et nos enfants sommes condamnés à entendre des pseudo-chanteurs comme Panine ou vomir sa liberté de penser. Ben ici, impossible de trouver un disque de François, jamais entendu à la radio ou à la télé, et pourtant, Mamadou m'a dit, serait vraiment le bienvenu. Voilà, j'espère qu'on entendra un de ces jours sur les ondes, pas de France Inter, mais de là-bas si j'y suis. Salut.
Cet après-midi, en travaillant, je viens d'apprendre que François, notre ami François Béranger, était parti. Bon, c'était un de ceux qui a bercé mes oreilles, mes convictions, qui sont les miennes actuellement. Il en a remis le flux à plus d'un. Et à chaque fois que je vais les voir en concert, ils me disaient, bougez pas, faites pas les fonds, il n'y a pas la place. Bah, plus ils s'en vont, ceux-là, plus il y en aura de la place pour les emmerdeurs. Allez, ciao François.
Bonsoir, je m'appelle Lisa et je voudrais dire qu'aujourd'hui c'est une bien triste journée. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris la mort de Furstenberg et aussi de François Béranger. Des hommes d'honneur tous les deux, des hommes de courage et de responsabilité morale face à toutes les détresses, tout au long de leur vie. Ils ont été injuriés, ils ont été pourchassés. L'un sous l'occupation, l'autre par les gouvernements de droite et de gauche et tous les deux en même temps. Ce serait bien qu'on vienne au cimetière à Montparnasse pour Schwarzenberg poser des fleurs ou juste venir comme ça. Parce que ces messieurs nous laissent une belle part d'éternité. Voilà. Il faudrait le lire, les relire et les faire lire, les faire entendre et les faire chanter. Merci. Au revoir.
Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit. On a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit. On a pressé le citron pour jeter la peau. Les citrons c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tout y quanti, Cameroun et tout y quanti. Les colons sont partis avec que des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque force est normale, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau.
Pas mal hein, quand même. Vous avez vraiment du, vous avez du talent. Beaucoup, beaucoup de, il aussi évidemment, mais beaucoup de vos messages sont bouleversants. Hommage à Schwarzenberg, hommage à François Béranger. Aujourd'hui, alors on se demande, la base de toute l'équipe se dit oui, on va lui faire un hommage la semaine prochaine. On va voir, on vous dira ça, comment ça avance, si on trouve des documents suffisamment suffisamment intéressants. Puis ça va dépendre aussi de vos messages. Je rappelle le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, on continue la balade, le long balade, bof bof, le long du mur, au pied du mur, entre Israël et quoi d'autre.
Salut Daniel Mermi, c'est Rachid de Drinel. Bravo pour tes émissions sur les nerfs de l'apartheid. À propos des droits au retour, voici ce qu'on a dit Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien. Est-ce que le droit au retour doit être comme le vin, qui doit être vu pour être bon? Les juifs qui ont quitté la Palestine il y a 3000 ans, eux ont le droit au retour. Et les palestiniens qui sont partis depuis 50 ans, eux n'ont pas ce droit. Est-ce que c'est juste?
J'écoute vos émissions sur la Palestine et j'ai appris beaucoup de choses, notamment que donc les gens anti-palestiniens étaient gênés, très très gênés par et humiliés aussi par tous ces murs que les Israéliens construisent comme ça rien que pour les emmerder. Et donc je me demandais pourquoi les Israéliens faisaient ça vraiment. Pourquoi les Israéliens n'aiment pas les gentils palestiniens, les bons islamistes qui viennent faire sauter des bombes chez eux? Pourquoi ils les laissent pas passer librement? Enfin, tout ça, ça me paraît compliqué. Enfin, Israéliens, abattez vos murs, laissez passer la tuerie de l'islamisme, vous en porterez que mieux. Voilà. Enfin, un temps pur bizarre, vos émissions. Voilà, bonsoir.
En réponse à l'émission d'aujourd'hui, je pense que, enfin, la solution serait, enfin, s'il y en a une, de créer en Israël un État laïque où toutes les communautés vivraient ensemble avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà pourquoi nous tenons tant en France à notre laïcité, afin de ne pas créer une république communautariste où la communauté chrétienne aurait sans doute plus de droits que les autres et où il y aurait bien sûr des luttes intestines. Allez, au revoir.
Pour revenir à ton émission d'aujourd'hui, mardi, ce qu'il est, t'as oublié de dire, mais c'est un oubli qu'on te pardonne, c'est que la construction du mur a des effets pervers et des objectifs bien plus pervers que simplement la sécurité du peuple d'Israël. En effet, il faut savoir que le mur traverse les territoires occupés, appelés territoires contestés ou partagés par Israël, que sciemment, l'État d'Israël, l'État de Sharon, fait exprès de couper les cultures, de couper certaines choses comme cette université, détourne le mur pour mettre en territoire israélien des captations d'eau, et j'en passe. Comme quoi, malheureusement, l'État d'Israël est bien loin de l'idéal qui était le sien à sa création. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai mal pour le peuple de Palestine et j'ai mal pour le peuple d'Israël parce que malheureusement, je vois pas quelle est la solution. Et pour terminer, je dirais, quel est le peuple qui se retrouve dans un ghetto? Le peuple palestinien ou de nouveau le peuple israélien? Voilà, Daniel, ben écoute, continue à nous titiller nos consciences avec tes émissions. Continue à être le poil à gratter de nos bonnes consciences. À bientôt.
Hervé de Grenoble. Voilà, je voudrais réagir sur l'émission Théma d'Arte de ce mardi soir consacrée à l'antisémitisme, entre guillemets. Bon, tout n'a pas été négatif de mon point de vue. Mais ce que j'ai retenu de l'émission surtout, c'est l'honnêteté et la lucidité de M. Romy Broman, qui a rappelé vraiment les spoliations et les atteintes aux droits de l'homme dont sont victimes les Palestiniens, même si le sujet était l'antisémitisme. On ne peut pas contourner l'histoire, malheureusement, du Proche-Orient. J'oubliais une chose que moi j'aurais voulu dire, c'est que dans cette émission où ont été stigmatisés avec raison certains débordements inadmissibles, on n'a pas mentionné les exactions et les violences du Bétard qui ne doivent rien à certaines pratiques d'autres groupuscules, et cela au nom de l'objectivité souhaitable pour ce type d'émission. Voilà, et il est pas temps aussi de voir, comme l'a fait remarquer d'ailleurs l'intervenant de la communauté musulmane, une contradiction quand même essentielle et récurrente au sein peut-être de la communauté juive et de certains de ses responsables. Comment peut-on faire le reproche aux jeunes des quartiers de s'identifier aux Palestiniens, alors que soi-même on se réfère sans arrêt et on défend finalement à tout prix Israël? J'avoue que cela m'échappe, et qu'en tout état de cause, ce processus d'identification nuit aux deux communautés et à la société française en général. Voilà, ciao, merci.
Aujourd'hui, jeudi 14 octobre, j'ai vu passer un vol d'oies sauvages. C'est important pour moi, mais cela n'est probablement plus une information intéressante pour la majorité des gens, depuis longtemps déjà. Si les oies sauvages venaient à disparaître du ciel, la majorité des gens ne s'en apercevrait d'ailleurs probablement jamais.
Ouais. Il y a une porte dans le mur, il y a un portail dans le mur un peu plus haut, et ça c'est le passage officiel, mais à pied seulement. Ouais. Monte sur la voiture et tire-toi de là, mais je sais pas de qui il parle. Ah, c'est les taxis. C'est le taxi, là.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, Israël au pied du mur.
Flight number 2, arriving from New York.
Est-ce que vous craignez pour votre vie en ce moment?
I always live with fear.
Je vis toujours avec la peur, vous savez.
From different kinds of
fear. Mais différentes de peur, des différentes origines.
But when you live with fear so long.
Mais quand on vit avec la peur aussi longtemps,
you have to make up your mind.
Il faut se décider, il faut se faire l'idée.
Are you the master of fear?
Est-ce que vous qui êtes le maître de
Or
la peur?
Is fear the master of you?
Ou est-ce que c'est la peur qui vous commande?
So if you settle this, you are the master of fear, it's fine.
Si vous vous faites à l'idée que vous maîtrisez votre peur, ça va.
You do not make fear dictate what you do.
Il ne faut pas que la peur dicte ce que vous faites.
loin des débats, diversions sur l'antisémitisme congénital des Français, surtout de la gauche qui soutient les islamistes avec leur croissant vert entre les dents comme jadis les bolcheviks. Loin de Paris, nous voici auprès de Sari Nusseibeh, qui est un intellectuel, lui aussi, président de l'université palestinienne de Al-Quds. On a fini hier l'émission avec lui au moment précis où il allait nous expliquer son point de vue sur la question des réfugiés, comment il fallait renoncer à certains rêves. C'est un... On peut parler d'une dissidence, peut-être, au sein du camp palestinien. Alors, à ce moment-là, il faudrait parler d'une dissidence au sein du camp israélien, puisque Sari Nusseibeh, avec Ami Ayalon, un ancien des services israéliens, font une proposition qui rencontre un certain succès, mais qui ne va pas sans grincer quelque peu. C'est donc Sari Nusseibeh que nous allons retrouver aujourd'hui, avec du temps, pour que vous compreniez, j'espère, le mieux possible ce qu'il veut dire, et qui nous semble intéressant, et qui semble pouvoir, il est professeur après tout, être capable de nous faire comprendre la question très très sensible, évidemment, des réfugiés palestiniens. Mais auparavant, une question. Comment parler à un bulldozer? Comment parler à un char? Comment parler à un avion? Comment parler à un document militaire? Autant de questions que se pose Amira Haas. Amira Haas est une journaliste israélienne qui travaille pour le journal, le grand journal israélien Haaretz, et qui est la seule journaliste israélienne vivant dans les territoires palestiniens. Elle vit exactement à Ramallah. Elle est une des rares, la seule à vivre dans les territoires, et une des rares à parler de l'intérieur des territoires. Il y a quelques autres reporters, dont Gideon Lévy, dont des auditeurs ont parlé, très très rares. Alors elle pose ces questions. Comment peut-on expliquer une occupation à un occupant? La connaissance au jour le jour de ce que vivent 3,5 millions d'êtres humains, dont l'avenir est un avenir contraint, sans espoir, l'expérience au jour le jour de la terre du grand-père et du père tombant sous le coup d'un ordre militaire ou d'un autre, d'une confiscation publique ou d'une autre, comment expliquerez-vous à un bulldozer ce que c'est que de vivre avec une terre qui rétrécit sous vos pieds, alors qu'en face s'agrandit la somptueuse localité des Juifs, ou qu'une nouvelle route est tracée pour eux? Comment le document portant les ordres militaires comprendra-t-il ce que c'est que vivre 37 ans livré à l'arbitraire bureaucratique des représentants de l'occupation étrangère, dont beaucoup habitent des colonies, un arbitraire qui décrète qui pourra se déplacer et qui ne le pourra pas, qui recevra des soins et qui n'en recevra pas, combien de pouces aura la canalisation d'eau, si et quand le camion-citerne pourra apporter de l'eau au village, quel arbre sera déraciné et lequel non. Comment expliquer aux chars et aux avions ce qu'est la peur d'un petit enfant? Pas 10 enfants, pas 100, mais des centaines de milliers, et pas une fois, tous les 2 mois, ou toutes les 2 semaines, mais tous les jours, pendant 3 ans. Et ce qui arrive à une fille ou à une grand-mère dont les proches, les civils, ont été tués sous leurs yeux, et pas 10, mais des centaines. Comment expliquer aux Israéliens qui reçoivent un compte-rendu extrêmement partiel sur les frayeurs de l'occupation militaire que les Palestiniens sont eux aussi, jour après jour, témoins de scènes d'horreur depuis le premier jour de ce nouveau conflit sanglant, alors qu'ils lançaient seulement des pierres et ne se faisaient pas encore sauter dans les rues de nos villes? Un extrait d'un article qui vient il y a quelques jours, signé de cette journaliste, l'admirable Amira Haas. Un livre est sorti de ses articles qui s'appelle « Boire la mer à Gaza » aux éditions La Fabrique. Mais on voit là que, loin, bien loin des préoccupations parisiennes et des intellectuels sédentaires, il nous faut bien sûr aller sur le terrain, essayer de comprendre et essayer de répondre à ces questions. Comment parler à un bulldozer? Comment parler à un char? Comment parler à un avion? Comment parler à un document militaire? Comment expliquer l'occupation à l'occupant?
רוצים שיניים! רוצים שיניים! רוצים שיניים! אנחנו דם נזויים!
En fait, ici, c'est le jeu de passe-frontière, quoi. Il y a la route, il y a un mur, mais un pauvre mur de palissades de béton qui sont pas bien jointes. On a rajouté un peu de barbelé au-dessus.
Mais pas partout.
On arrive presque à se passer des cigarettes entre les interstices du mur de béton.
Mais de toute façon, le mur, il coupe toute la ville de Jérusalem-Est, donc tout le monde, il y a personne qui peut passer. Il y a pas un endroit spécial, même, où les soldats laissent passer. Là, on voit des gens qui sautent, tu vois, au loin.
Ouais.
Il n'y a pas une ouverture où il y a des gens qui ont le droit avec un passe-droit ou avec des cartes d'identité. Il faut absolument faire tout le tour pendant 40 minutes de la ville passée.
Là, il est bientôt 7h30 du matin. Et là, c'est le matin, donc c'est l'heure où on va bosser, a priori, où beaucoup de gens ont du boulot de l'autre côté. Salam alaikum. Vous allez où, là, monsieur?
Le Gotz.
À Jérusalem.
À Jérusalem.
Vous allez travailler?
يعني محبس عبودة أين عبودة؟
je cherche du travail, y a pas de travail.
أنا إلي 3 سنين مبلي عبودة.
ça fait 3 ans que je suis sans travail.
أني عبيد ببنيان.
je travaille dans la construction, dans les bâtiments. je suis en retard parce qu'il y a des checkpoints sur le chemin un peu plus loin.
أصدقاء أني عند الزمان.
je suis désolé, j'ai pas le temps.
bonne chance.
أنا بروح على الشغل مشان أشتغل.
je vais au travail.
والله الحمد لله.
Ma
fille?
J'ai pas de travail, je vais là, on me donne du travail. Tout est fermé, c'est pas possible de faire quoi que ce soit.
Quel âge vous avez, monsieur?
57 ans.
Et là, vous allez grimper et escalader le mur pour aller essayer de trouver du travail de l'autre côté, du côté de Jérusalem.
Je veux trouver du travail parce que j'ai un enfant, et mais je trouve pas.
مشان نعيش شكرا
عفوا
Alors voilà, nous revoilà à Boudiz, donc dans cette appelons ça la banlieue de Jérusalem, où un mur a été construit autour, englobant Jérusalem. Enfin, un mur, c'est le mur, hein, c'est le fameux mur, muraille, comme on voudra. Il y a un petit glossaire à faire, hein, l'anthologie de tous les vocables et tous les euphémismes aussi sur ce mot. Disons clôture, et qui entoure Jérusalem, coupant une partie de la population palestinienne du centre de la ville. Alors on a vu hier les difficultés incroyables pour passer quand même, parce que les gens ont leur travail, leur école, leurs amis, leur famille de l'autre côté de ce mur, comment les patrouilles israéliennes passent, et tout un jeu de chat et de souris. Parfois le chat est très violent et la souris se cache, et puis après on essaye de passer. C'est évidemment d'une stupidité. Je crois que le mot, quand on était à Calquilière, on dit comment ne pas employer le mot ghetto, et là comment ne pas employer le mot kafkaïen.
C'est là, la route, il va passer là, qui monte là. Donc pour faire passer des grands engins,
ils ont donc
il n'y a pas le désert et tout ça, ils ont abattu le mur.
C'est pour ça que c'est ouvert.
Donc c'est pas ouvert pour les Palestiniens. Mais si vous venez à 7h de mat chaque jour, vous allez vous trouver ici avec 200-300 personnes. C'est un passage pour le bulldozer, hein. Mmh. C'est ces grands engins qui sont maintenant à l'université. Moi, j'enseigne à l'université Al-Quds. Je mets des conférences à l'université Al-Quds. Donc, la même route là va avaler la moitié de terrain et de jardin de jeu de football
de l'université
d'Abodis.
Alors, qui passe? Pourquoi les gens passent?
C'est leur vie, c'est comme à Paris. Vous êtes français. Donc à Paris, les gens n'habitent pas, les Parisiens à Paris seulement. Il y a les familles agrandies, donc les enfants elles trouvent où habiter. Donc ils habitaient à La Hézarie, à Beit Hanina, à Boudis, et c'est partout. Donc ce sont des gens de Jérusalem qui habitent ici. Et d'autres, ils avaient leur vie à Jérusalem depuis toujours. Ils ont leur magasin, leur vie économique là-bas. Les enfants, ils continuent leur scolarité où? C'est à Jérusalem. Chaque jour, ils grimpent en bas. Ou bien, ils passent par ici. Les villageois ici, ils vont pour vendre leurs petits produits, fromage, huile, olive, feuilles de vigne, etc. Donc, ils essayent d'aller à la vieille ville pour vendre. Les hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux ici. Ils sont à 5 minutes par rapport au barrage, en bas.
Alors, si vous avez un blessé ou un malade, il faut le passer par-dessus le mur?
Il y en a beaucoup qui ont perdu, mort devant le mur. Le soldat ne permet pas. C'est coup de chance. Il y a plusieurs femmes, ils ont perdu leurs enfants devant le mur. Il y a un vieux et deux vieux, ils ont mort devant le mur parce que le soldat ne veut plus le permettre d'aller à leur magasin qui se trouve rue Saladin. Il y a plusieurs cas ici. C'était là où passe le mur. Il y a des cas incroyables, surréalistes.
Ça sent bon, là. Il y a une vieille dame qui est là avec un panier de sauge, c'est ça?
Oui, c'est de la sauge qu'elle porte sur sa tête.
La sauge fraîche qu'elle a cueillie. Et il va falloir trouver quelqu'un pour le passer de l'autre côté.
J'ai l'impression, elle le pose, elle regarde. Je pense qu'elle l'amène pour aller le vendre devant la porte de Damas. Il y a plein de dames comme elle qui sont assises et qui vendent des herbes.
Comment elle va faire, alors, cette femme pour passer, pour aller de l'autre côté?
Et jump from here.
Elle va sauter de l'autre côté du mur.
Je l'ai dit, mais elle est vieille. Yes.
And ride in the car.
Et elle va prendre une des voitures qui est de l'autre côté du mur.
We'll see the...
Et elle va vendre sa sauge.
Let's go.
Il a dit qu'il doit y aller, ouais. Il doit être pressé pour aller au travail.
Good luck. Bonne chance. Et en fait, c'est où il y a une petite espèce de petite alcôve par laquelle...
Alors là, c'est pareil. Ici, il était plus bas le mur. Et comme les gens passaient par là, parce que le terrain est plus élevé, alors ils ont remonté le mur, mais les gens peuvent quand même passer.
Et voilà les grand-mères qui ramènent et qui rentassent de la sauge. Regarde, elle remonte ses manches. Ah oui, là, c'est vraiment la mamie qui escalade. Ouais. Elle remonte ses paniers.
Ils sont lourds, hein, ils ont l'air lourds. Ils sont la moitié de sa taille. Et là, hop, elle les balance de l'autre côté. Et après, elle va sauter.
Ah, on vient pour aider un peu la dame.
On est à 3 pour soulever les sacs.
Alors c'est plus qu'une répression, hein. C'est vraiment la destruction d'une société. C'est la destruction des liens dans une société.
D'abord, c'est ça. Il a coupé tous les liens, toute pensée qu'elles peuvent vivre en paix entre les deux. Donc c'est visé, c'est systématique. C'est un programme de création de haine et d'installation de séparation définitive entre les deux. C'est le gouvernement, c'est pas la société israélienne. C'est le gouvernement et actuellement, bien sûr, la société israélienne, puisqu'elle est élue, Sharon, par la société israélienne. Donc, c'est-à-dire, petit à petit, ils sont en train d'installer un rejet mutuel de part d'autre par une répression collective pour toute la société palestinienne et humiliation collective.
Humiliation, oui.
Humiliation quotidienne. C'est-à-dire, bien qu'il y ait des gens, des professeurs à l'université Al-Quds, qui ont la pièce d'identité de Jérusalem, ils viennent enseigner ici, ils doivent passer par la phase d'humiliation. Ne parlons pas des étudiants. Nos étudiants, plusieurs reprises, je me trouve devant la moitié de ma classe. Cinquantaine de personnes, je me trouve avec 20 personnes, 25 personnes. Et les autres, les collègues, ils disent, ils sont au barrage, ils n'arrivent pas à passer. Alors, on essaye de faire avec la situation. Mais c'est-à-dire, c'est un plan d'humiliation et de punition collective et destruction d'une société. C'est la destruction de la société palestinienne, reprise méthodiquement, économiquement, socialement, culturellement, ne parlons pas, et etc. Politiquement, vous voyez l'attitude.
C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est pas forcément une notion qu'on a très clairement en France, hein, parce qu'on a l'habitude d'évaluer la gravité d'un conflit au nombre de morts et éventuellement au nombre de blessés. Encore que ça, on met ça de côté. Mais c'est le nombre de morts, voilà. Un conflit, c'est ça. Or là, ce qui est difficile à percevoir dans le cas de ce conflit, c'est la destruction, comme vous dites, d'une société, une humiliation psychologique, psychique, une destruction psychique.
Visée. Là, c'est par exemple cette semaine, ça fait une semaine qu'on n'arrive pas à dormir. La nuit, on entend de bruit. On habite pas loin d'une caserne. Il y a la caserne à l'intérieur. Donc, on voit vers 2 heures de mat le passage de trentaines de soldats, de parachutistes. 2-3 jours auparavant, les voisins sont venus de l'intérieur du village. À l'intérieur, nous, on est au contour, si vous voulez. Et nous a expliqué que Et les soldats leur ont dit, il vient à 12 heures de mat, rien que pour les empêcher de dormir. Et ils passent d'une maison à une autre. Bien sûr, dit, on fouille. On fait des vérifications des pièces d'identité, etc. Mais il y en a qui, ils ont dit aussi, les soldats, ils ont dit, vous allez voir ce que, bientôt c'est Ramadan, vous allez voir comment vous allez passer Ramadan. Donc les gens appréhendent. Pourquoi? Et ce sont des gens pacifiques, ce sont des gens non violents. Et Israël ne fait que défabriquer un peuple, maintenant, qui va, ça y est, il a basculé, la plupart est basculé. Dans l'autre côté, d'abord, on dit, nous les pacifistes, on fait partie du camp des pacifistes, on dit qu'on peut vivre avec la société israélienne et de trouver un autre chemin pour discuter et trouver un arrangement qui convient aux deux sociétés, d'une façon ou d'autre. Bien sûr, en se basant sur les trois points des Nations Unies, c'est-à-dire le partage, un État palestinien en 67, et Jérusalem-Est pour capitale, et le retour des Palestiniens à discuter comment le retour, d'une façon à ce que...
Ça, c'est le point sensible.
Oui, d'une façon à ce que l'État israélien reste juif. Bon, c'est lui qui veut retourner, il vit sous la loi israélienne, donc en tant que citoyen israélien. Et on peut faire un mécanisme de façon ou d'autre à ce que le retour, le droit de retour, c'est un droit sacré, et il perd pas sa valeur avec le temps. Même au niveau de loi internationale, même si un État signe pour le nom de retour, les individus ne perdent pas leurs droits. Ça, c'est, donc c'est quelque chose fixe et stable et restera dans l'histoire et devant Israël éternellement.
Pacifiste, mesuré, Abou Yasmine est maître de conférence, comme il vient de nous le dire, à l'université Al-Quds, l'université palestinienne, qui est juste à côté, et on est dans un paysage de désolation, c'est-à-dire qu'on est dans un paysage superbe, hein, c'est très beau, on oublie toujours que c'est si beau ce pays, on l'oublierait, hein, et qui est vraiment fendu en deux par par le tracé, c'est en cours, on a des bulldozers devant nous, des machines, des camions, des bahuts énormes, qui sont en train d'installer cette clôture de sécurité qui est vécu évidemment comme un déchirement, vraiment le mot c'est le déchirement. Alors que faire? Se laisser enfermer dans le ghetto, prendre sa valise, se sauver, partir, et ou bien alors évidemment la violence ou bien la lutte armée, quelle autre solution? Alors Abou Yasmine a rappelé encore une fois les points importants, le partage du pays, disons, la création d'État palestinien, Jérusalem-Est comme capitale de cette peau de chagrin d'État palestinien, et puis la question du retour des réfugiés. Un auditeur rappelait ce que disait le poète palestinien Mahmoud Darwish, qu'il est très difficile à faire comprendre à des Palestiniens qui ont quitté. Vous avez vu, j'ai dit ni fui ni chassé, hein, j'ai dit quitter. Il y a 50 ans, leur maison, leur champ, leur dire vous n'avez pas le droit de revenir, alors que, dit Mahmoud Darwish, les Juifs qui sont partis il y a 3000 ans ont, eux, le droit de revenir. Donc il y a quelque chose là de compliqué, quelque chose qu'il faut comprendre, quelque chose qui est à expliquer ou à négocier, bien évidemment. Alors, Abou Yasmine, lui, il est palestinien et il est originaire de Haïfa, dont sa famille a quitté en 1949.
Moi, je suis de Haïfa, c'est le retour à Haïfa, le retour au monde du Carmel, à Haïfa, c'est Haïfa.
Vous avez vraiment envie de retourner? Vous aviez quoi? Votre famille avait des terres, une maison?
Bien sûr, j'ai une partie de ma famille existe toujours là-bas. Notre terre était confisquée, la maison est détruite, le village n'existe plus, il est habité par d'autres juifs, et notre terre, il y a des sociétés, des entreprises, des high-tech. Riche.
Alors, qu'est-ce que vous voulez par rapport à ça? Vous voulez récupérer la terre? Vous voulez des indemnités? Vous voulez quoi?
C'est simple. Le retour sera de la façon suivante. Si quelqu'un habite dans ma maison, on construit en haut, on vit ensemble. Donc, c'est pas un problème. Et si sur ma terre, il y a une entreprise
high-tech,
ça se calcule. On peut calculer depuis 48 jusqu'à maintenant comme si c'était loué.
Indemnisation. Voilà.
Donc, il faut une indemnisation aussi. On trouve, ça discute. On trouve une façon ou d'autre pour continuer à sa fonction, mais on trouve une solution et on retourne, on vit ensemble. C'est simple comme ça.
Ça, on vous répondra que ça, c'est une menace sur le caractère juif de l'État d'Israël.
Alors, je veux voir qu'est-ce que c'est caractère juif. Est-ce que caractère juif, c'est-à-dire l'exclusion de l'autre ou caractère juif qui sera créateur? C'est-à-dire qu'il donne pour l'humanité quelque chose en plus. Si quelque chose en plus, c'est le bienvenu à ce que le caractère juif. Donc, ça sera quoi? Créateur. Donc, ensemble, pour l'humanité, on travaille. Mais si quelque chose pour mettre le juif, le goy d'un côté, et les autres qui sont les non-juifs et l'extérieur, bien sûr, non. C'est combattu. Il faut combattre, et je pense que le racisme n'est pas accepté partout. Mmh. Donc, ça dépend comment la vision des populations, de peuples juifs, et le judaïsme. Heureusement, la communauté juive en France, maintenant, elle est divisée. Il y a un parti qui dit, on est français avant d'être juif. Et Israël ne nous présente pas. Et si on veut à ce qu'Israël nous présente, il devrait être, comme tout le monde, c'est un pays où là, ses lacunes, ses positivités, ses négativités, c'est qu'il est très créateur comme les autres. Il y a beaucoup des amis, je dis, je comprends pas, dès le début, que je suis le premier, le plus fort, le meilleur, là, etc. Je comprends pas. J'ai raté mes études, j'arrive pas à réaliser ce que je veux, et je me trouve un peu, je comprends pas qu'est-ce qu'on nous fait. Donc, la personne, l'individu, la société israélienne, et on inculque quelque chose qui va pas avec la nature de l'homme. C'est-à-dire, on fait, pour épanouir quelqu'un, on va avec ce qu'elle en veut, ce qu'elle fait. Et puis, on va au-delà pour faire quelqu'un qui est capable d'être épanoui, mais dans une échelle humaine, tout égaux.
Fou, il y a de la poussière, là, le gars. Voilà. Il a jeté des... On va se mettre de l'autre côté.
Si j'arrive,
voilà. Ça va. Il a la chance maintenant, il arrive à passer avec ses légumes de côté Jérusalem-Est pour aller vendre ici. Bon, je vous présente un habitant à côté de Mir, M. Rassem.
Bonjour.
Journaliste, Sahafi Min Faraza. Merci.
Avec sa 504 Peugeot.
On profite. Il vient de Bethlehem.
Ah, là, il est en train de montrer là où le mur va passer.
Ici, il y aura le barbelé ou bien le mur. Ici, il y aura un mur.
Ah, il y a des chiffres tatoués en bleu ici sur le sol. Et ça, c'est le passage du mur.
Et les maisons seront derrière.
Et lui, il habite où? Il habite derrière?
Il est là, voilà, c'est là.
Il habite derrière le mur. Il va être emmuré.
Voilà, je serai emmuré.
Il va être emmuré.
Ah voilà, c'est ça, donc des bandes de stands, des enclaves séparées, et voilà un État palestinien. D'après Jaron, le plan Jaron, heureusement. Que c'est pas la société israélienne qui adopte ça, il y en a beaucoup qui sont contre ça. Et le mouvement de la paix israélienne dit, Israël et l'armée israélienne doivent se retirer de Cisjordanie, c'est clair. Se retirer de Cisjordanie, c'est-à-dire les frontières de 67, et trouver une négociation sur Jérusalem et les questions les plus après compliquées et délicates, et les réfugiés.
Retrait ou arrêt des attentats, par quoi on commence?
C'est un prétexte. Même les Israéliens, nos collègues israéliens, savent bien que ce n'est qu'un prétexte pour prolonger et durer l'occupation. C'est pas vrai. Parce que retrait ou bien arrêt des attentats, même les extrémistes Hamas ou djihad islami, ils ont fait des trêves. Ils ont maintenu combien? La première trêve, ça a duré 3 semaines, il y a quelques mois. Et là, récemment, ça a duré combien? 1 mois et demi. Donc, c'est-à-dire, il y a eu un arrêt d'attentats clair, déclaré, avec...
Un arrêt unilatéral.
Et en plus, unilatéral. Ça veut dire, c'est Sharon qui a dit, ça ne concernait pas. C'est unilatéral. Mais l'armée israélienne, eh bien, le gouvernement Sharon ne veut pas. C'est un prétexte. Ce n'est qu'un prétexte.
Je pense que c'est un pétaron, la palestinienne qui est dans Israël, dans ce qui est dans לא, לא ימצא פה, הוא ימצא במקומות אחרות, שם הם יוכלו לחיות בצורה נורמלית, בצורה מכובדת, לא כמו פליטים במחנות.
Je pense que la solution pour les Palestiniens qui habitent dans ces territoires doit être d'habiter dans un autre pays où ils pourront vivre mieux, avec une meilleure situation, et ils ne seront pas des réfugiés.
Voilà, voilà, ça c'est un jeune Israélien, jeune homme, rencontré à Tel Aviv. Il est en terminale, donc il a 16 ans à peu près, et il est fils d'une famille de colons, d'une colonie, d'une implantation en Cisjordanie. Et voilà son point de vue. Son point de vue, c'est que les Palestiniens n'ont qu'à partir.
Ah, donc toi tu serais plutôt Eretz Israël, le grand Israël, et les Palestiniens dans un autre pays à côté.
בתור אחד שגר במה שנקרא התנחלות, אני חושב שזה הדבר הכי נכון, כי אין הבדל בין היישוב שאני גר, אלפי מנשה, לאריאל, לאמנואל, בתל, ירושלים, תל אביב וחיפה, הכל אותו דבר.
J'habite dans une colonie, donc je pense qu'il n'y a pas de différence entre בתל, אלפי מנשה, ירושלים ותל אביב.
אני לא חושב שהחומה של ההפרדה זה מה שיעזור, כי מפרידה בין יהודים מצד אחד ליהודים מצד שני, וערבים מצד אחד וערבים מצד שני. זה רק מקשה יותר לחיים שלנו ושלהם. מה שצריך זה שתי מדינות לשתי עמים, שכבר יש את זה. יש מדינה אחת שקוראים לירדן, ומדינה אחת שלנו, שישראל. שתי מדינות לשתי עמים ושתי צידי הירדן.
Je pense pas que le mur c'est une bonne solution, car le mur divise entre des juifs d'un côté et des juifs de l'autre côté, et entre des palestiniens d'un côté et des palestiniens de l'autre côté. Je pense que la solution c'est deux pays. Il y a un pays déjà qui existe, c'est la Jordanie.
מדינה ירדן זאת המדינה הפלסטינית. יותר מ-75% זה פלסטינים בירדן.
La Jordanie, c'est un état palestinien. 75% de la population de Jordanie sont des palestiniens. Donc il y a l'état de Jordanie pour les palestiniens et l'état d'Israël pour les juifs.
Mais ils vont jamais vouloir partir, c'est d'accord.
זה לא כל כך נכון. בשנים האחרונות היה תנוע של כרבע מיליון פלסטינים שעברו לבד מרצונם לירדן. יש עוד שרוצים, אבל אין להם את האמצעים לעשות את זה, ואין להם את המנים. אם אנחנו נעזור להם, אם אנחנו פעילות דיפלומטית של כל העולם, שיתוף עם ירדן, עם ארצות הברית, אפילו עם עיראק, שצריך לשבת אותם מחדש, אפשר למצוא פתרונות, רק צריך לנסות לפעול לכיוון הזה, וזה יהיה יותר טוב לכולם.
Je pense pas que c'est vrai, il y a beaucoup de Palestiniens qui sont partis en Jordanie, mais seulement tous n'ont pas les moyens de faire ça, mais si la diplomatie aide pour régler ce problème de cette manière-là, ça peut marcher. Même en Irak, il y a de la place.
Voilà, le point de vue d'un jeune colon. Il faut bien faire une différence, hein, on l'a dit et redit, entre parmi ceux qui habitent dans les colonies, dans les implantations, comme vous voudrez, eh bien il y a ceux qui sont là par idéologie, qui sont irréductibles, et puis irréductibles colons, et puis il y a des gens qui sont là pour des raisons économiques, parce qu'il y a des aides, parce que c'est plus pratique. Il faut bien faire la différence. C'est important. Si un beau jour il y avait un retrait, le pourcentage d'irréductibles n'est peut-être pas aussi élevé que certains voudraient le faire croire. Alors nous revoilà donc à l'université de Al-Quds, l'université palestinienne de Al-Quds, où nous retrouvons Sarine Ouissebe. On l'avait laissé hier soir sur le point précis, évidemment, des réfugiés. Pourquoi c'est important? Parce que Sarine Ouissebe, je vous rappelle qu'il est directeur de l'université palestinienne, de cette université palestinienne prestigieuse, et au mois de mai ou juin, je crois dernier, avec un Israélien, Ami Ayalon, ancien chef des renseignements intérieurs israéliens, ils ont à eux deux publié un texte court qui s'intitule « La voix du peuple », où il propose une solution à ce conflit. C'est-à-dire qu'il propose déjà le but de la démarche, au lieu d'aller progressivement, de négocier comme ça par petits pas. Non, c'est de proposer tout de suite une solution. Alors, bon, c'est une initiative comme une autre, qui est, dans les deux cas, ils sont en dissidence avec leur camp, Sarine Ouissebe avec le camp palestinien et Ayalon avec la politique actuelle menée par le gouvernement Sharon. Mais leur proposition rencontre un succès, puisque ils ont eu des signatures à peu près autant du côté israélien que du côté palestinien, un peu plus du côté israélien, peut-être aujourd'hui ça va être à peu près 50 000 du côté israélien, et puis disons 40 000 du côté palestinien. Alors, bon,
Sari Moussebe nous a expliqué son point de vue, pourquoi il fallait que ce soit la base, que ça vienne de la base, comme on disait autrefois, d'où le titre de la voix du peuple, d'où ces signatures tant convoitées, comment il faut poser les buts à atteindre, et puis donc le partage, donc Jérusalem comme capitale, donc évidemment la création d'un État palestinien, et on en était resté à la question des réfugiés. Mais auparavant, parce que c'est là qu'il y a le fameux rêve auquel il faudrait renoncer, mais tout d'abord, Sari Moussebe revient ou donne sa position sur les attentats suicides et sur ce qu'il appelle les suicide attacks.
Yes, I have been one of the first Palestinians.
Oui, j'étais un des premiers Palestiniens
to call against suicide attacks.
À dénoncer les attentats suicides.
And also one of the first Palestinians to call against the use of violence.
Et aussi un des premiers Palestiniens à s'opposer à l'usage de la violence.
Qui vous fait beaucoup d'ennemis dans votre propre camp.
When I started, I was one person.
Quand j'ai commencé, j'étais tout seul.
Today, who signed my statement, there are 45,000 Palestinians in 3 months.
Maintenant, en 3 mois, il y a 45 000 Palestiniens qui ont signé cet accord.
How many Israelians?
There are about 60,000 Israelis.
Et c'est à peu près 60 000 Israéliens.
Est-ce que vous pensez que les Palestiniens qui sont séduits par les actions, par les actes du Hamas, peuvent réfléchir et venir de votre côté pour une voie pacifique et une voie négociée, une voie politique?
Well, I think there's a chance, a very good chance,
une très bonne chance même.
That the Palestinians, seeing how ruinous and totally futile,
et qui voient à quel point c'est désastreux et même futile,
the last 3 years have been,
ce qu'ont été ces 3 dernières années.
And many Palestinians will probably come to see,
beaucoup de Palestiniens
that the same path is the path of negotiations,
que voir que le seul voie possible c'est celle des négociations.
But on condition,
mais à la seule condition,
that the negotiations be based on the final status negotiations,
que ces négociations soient basées sur le but final,
so that we know in advance the negotiations will lead to the end of occupation,
à quoi nous amènent les négociations, c'est-à-dire la fin de l'occupation,
of the territory of 67,
de les territoires de 67,
and the ability of us to have East Jerusalem as capital,
et le fait que les Palestiniens puissent avoir Jérusalem Est comme capitale.
Et la question des réfugiés, parce que c'est toujours la question, l'une des questions les plus sensibles, c'est la question des réfugiés. Quelle est votre position avec Ayalon?
This is the most sensitive and difficult issue I have faced.
Ça, c'est le problème le plus dur à laquelle j'ai été confronté.
My position is that I cannot retrieve the past or bring the refugees back to pre-48.
Je sais bien qu'on ne peut pas recréer le passé et ramener les réfugiés à la situation de 48.
So I believe that we should give a future to the refugees here in the Palestinian state.
Je pense qu'on doit donner un futur à ces réfugiés ici, dans un État palestinien.
This is not an absolute just position, but it is a practically just position.
C'est pas une position absolument juste, mais c'est
réaliste.
And compensation.
Avec des compensations.
C'est-à-dire, voilà, en clair, ça veut dire que vous ne soutenez pas le retour des réfugiés palestiniens en Israël, ça vous dites non. Pas de retour de réfugiés en Israël afin qu'Israël garde son caractère juif, le caractère d'un État juif, avec des compensations. Et en échange, vous dites fin de la colonisation.
Absolument, oui. Oui, absolutely. I cannot and no Palestinian leader can honestly,
je pense pas que moi en tout cas, et aucun leader palestinien honnête,
promise,
ne peut pas promettre
a Palestinian refugee in Lebanon or Jordan,
un réfugié palestinien qui soit en Liban ou en Jordanie,
to return exactly to where he used to be before 48.
On ne peut pas lui promettre qu'il retournera là, exactement là où il était avant 48.
And it's a painful reality.
C'est une réalité douloureuse.
But if we do not do this, the reality will be even more painful.
Ça sera encore plus douloureux.
Proposition donc de cet intellectuel palestinien Sari Moussebe, avec qui a signé donc cet appel avec un personnage important de la scène politique israélienne, Ami Ayalon. Il va de soi que c'est pas mon point de vue, je suis pas en train de rouler pour Sari Moussebe. Je dis ça parce que le débat est tellement passionné, la pression est telle dans ce domaine que je suis sûr d'avoir des messages de ce genre. Non. J'ai voulu vous faire entendre ce point de vue parce que je pense qu'il permet de comprendre les enjeux du conflit du Proche-Orient.
I think there is the Israeli society is a complex society.
Une société très complexe.
There is a majority that supports Sharon in his war against us.
La majorité soutient Sharon dans sa guerre contre nous.
But there is a majority also that realizes that this war will not bring peace.
Mais la majorité aussi reconnaît que cette guerre n'apportera pas la paix.
It's a dual personality.
C'est double.
And similarly on the Palestinian side.
Et pareil du côté palestinien.
A majority will tell you we want to go on fighting.
Une majorité vous dira nous on veut se battre, on est prêt à aller faire des attentats suicides.
But a majority also would accept peace along 67.
Mais une majorité accepterait la paix le long des frontières de 67.
But a lot of them are afraid of saying yes we are because they don't trust, they don't have confidence in the Israeli side.
Mais beaucoup n'osent pas le dire, ont peur de dire d'accord, on est prêt à se retirer parce qu'ils n'ont pas confiance du côté
israélien. So this is why it is important to go back to our campaign.
Et c'est pourquoi notre campagne insiste là-dessus.
That we build it together from
que
below.
Que ça soit fait ensemble.
Every one person,
every one
Israeli who signs, there has to be a Palestinian who signs.
Pour chaque Israélien qui signe, il doit y avoir un Palestinien qui signe.
Vous avez le soutien d'Arafat?
He doesn't oppose me.
Il n'est pas opposé à notre
position. I let him know of what I do.
Je lui dis ce que je fais.
He doesn't know whether I will succeed.
Il ne sait pas si on va réussir.
But I'm sure that the more success I achieve, the more supportive he will be.
Mais je suis sûr que plus on réussira et plus il nous soutiendra.
C'est-à-dire que ce que vous demandez à chacun de son côté, vers son camp, Ayalon vers les Israéliens et vous du côté des Palestiniens, vous dites il faut amputer une partie de nos rêves.
Yes. We have to abandon dreams that come from the past.
On doit abandonner ces rêves qui viennent du passé.
We have to not abandon, on the contrary, to try to bring into reality our dreams about the future.
Mais au contraire, on doit pas abandonner, mais amener à la réalité, créer nos rêves pour un futur.
Et quand même, là vous êtes, votre tente, là où nous nous trouvons, elle est construite sur le passage même du mur.
Yes, because the wall is coming, as you see, right
vous
down
voyez,
from
là,
there.
La colline en haut, là, le mur va passer par là.
It begins there on our property and ends in a straight line on the other side of our main campus.
Il commence so, là déjà, c'est déjà
all of this property,
campus.
So all of this property.
Il va aller jusqu'à l'autre bout d'une ligne droite. Donc tout ce qu'il y a de ce côté-ci.
So all of this property will be confiscated.
Il va être confisqué.
Merci à Sari Nusseibé, donc je rappelle directeur de l'université Al-Quds à Jérusalem. Merci à nos traducteurs et traductrices, Sarah Bitbol, Karen Akota et Michel Warszawski. Reportage et traduction, Guy Vanctil, technique aujourd'hui Patrick Henry et Étienne Mishka, assistante Anne de Giaferi. Le répondeur c'est Christophe Imbert et le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37. Choix musicaux, Koy Nguyen, montage Yann Chouquet et Dilat. Et puis c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Toujours beaucoup de bouquins évidemment sur ce sujet, mais en voilà un qui me semble très très éclairant. C'est Israélien et Palestinien, la guerre en partage, sous la direction de deux chercheurs, Alain Dikoff et Rémi Levaux, avec les contributions d'une série de chercheurs autour de, voilà, Israéliens et Palestiniens, la guerre en partage, en espérant évidemment, faut-il le dire, qu'un jour, ce sera la paix partagée. Réclame.